Radio 1, premier sur l'info, le journal.
Vendredi 20 février, il est 7h30, c'est parti pour le journal. Tamara Sentis, bonjour.
Bonjour Moretto et bonjour à tous. 2 ans de prison ferme, c'est la peine dont a écopé hier l'ancien sergent-chef du RSMA accusé de viol. À l'issue des 3 jours de procès, il a été directement conduit à Noutania hier soir. Également au sommaire de cette édition, la baisse des tarifs de l'électricité confirmée hier par le PDG d'EDT. Hervé Dubos-Martin laisse au gouvernement la primeur d'annoncer les chiffres, mais assure que les renégociations en cours déboucheront sur un allègement du montant de nos factures. Nous ferons également le point sur la rencontre prévue aujourd'hui entre Gaston Floss et Édouard Fritsch après 5 mois de silence et de coups bas. Et puis nous parlerons également de l'histoire de l'immigration chinoise en Polynésie et de la Tahiti Nuiva qui, cette année, pour ses 20 ans, promet du beau spectacle et de la diversité.
Alors, l'ancien sergent-chef a écopé d'une peine de 2 ans ferme hier.
Après 3 jours de procès, l'ancien sergent-chef de Marina, Pierre Bonnery, a été reconnu coupable hier de viol et agression sexuelle commis par personne abusant de son autorité. Il a été condamné à 2 ans de prison ferme et 3 ans de sursis. L'affaire avait éclaté en 2009 avec un mail anonyme envoyé au commandant du GSMA de Marina, dans lequel l'une des stagiaires y dénonçait le comportement de son jeune instructeur. Renvoyé aux assises, Pierre Bonnery, 36 ans, a nié les fait tout au long du procès, mais dépeint comme la caricature d'un sous-officier extrêmement porté sur le sexe. Il a été également décrit comme un pervers sexuel par l'expert psychiatre qu'il a entendu pendant l'enquête. Sa peine a été plus légère que les 8 ans requis par l'avocat général, mais bien plus lourde que ce que son avocat demandait, à savoir l'acquittement pur et simple. Un mandat de dépôt à Noutania a directement été prononcé à son encontre.
Le PDG d'EDT confirme la baisse des tarifs de l'électricité.
Après l'annonce mercredi d'une baisse des prix du carburant, le gouvernement avait évoqué la renégociation de ses relations contractuelles avec EDT et une probable baisse des prix de l'électricité. Information confirmée hier par le PDG de la société Hervé Dubos-Martin qui nous a confié que des renégociations contractuelles entre le pays et EDT se tenaient jusqu'au 1er mars prochain. Il veut laisser le soin au gouvernement d'annoncer les modalités exactes de cette évolution tarifaire, mais assure que globalement, on va vers une baisse des tarifs de l'électricité.
Il y a des discussions, évidemment, puisqu'il y a des échéances contractuelles au 1er mars. Il faut savoir que, par contre, la politique qui a été suivie par la Polynésie française depuis des années de privilégier le développement des installations solaires entraîne des surcoûts sur le système. Donc, d'un côté, il y a le prix de pétrole qui baisse, et ça entraîne les prix, logiquement, à la baisse. Et d'un autre, il y a le solaire qui monte et qui, pour l'instant, entraîne des surcoûts. Donc, entre tout ça, il y a des arbitrages, il y a des discussions. Eh bien, on va, je pense, globalement vers une baisse des tarifs. Je peux que confirmer ce qu'a communiqué le gouvernement, de quelle ampleur, à quelle date, selon quelle modalité, c'est pas encore totalement fixé. Et encore une fois, je laisserai, lorsque les négociations seront achevées et les calculs, je laisserai au gouvernement la primeur des annonces.
Voilà. En tout cas, ça touchera directement le particulier, le consommateur.
Oui, ça touchera, je pense, tout le monde.
Édouard Fritsch et Gaston Floss vont se rencontrer ce matin.
Le président et son prédécesseur, actuel chef de file du Tawera, ont rendez-vous à 10h à l'Assemblée. Les deux hommes affirment eux-mêmes qu'ils ne se sont pas vus depuis plus de 5 mois. La demande d'entrevue a été formulée par Gaston Floss lui-même et signée par une grande partie des élus orange. Ce rendez-vous est capital pour le Tawera qui, avec les coups politiques, les affaires judiciaires et les phrases blessantes qui ont fait la une des médias ces derniers mois, s'est retrouvé divisé en 2 clans. Interrogé mercredi, le porte-parole du gouvernement Jean-Christophe Bouissou s'est dit optimiste sur les effets de cette entrevue pour le parti. Il est interrogé par Samia Stambouli.
Il n'y a pas de problème sur les points de l'ordre du jour. Je crois qu'on se rejoint entre la nécessité de regarder à nouveau ce qu'on peut considérer comme étant un fonctionnement normal des institutions. La première institution du pays, c'est le président de la Polynésie française. C'est aussi le gouvernement, c'est la deuxième institution. La troisième institution, c'est l'Assemblée de la Polynésie. Une quatrième, c'est le CESC. Donc il faut que l'on regarde comment est-ce qu'on peut faire en sorte que nous ayons des institutions qui fonctionnent bien, et tout cela évidemment sous l'éclairage d'un parti politique qui a son rôle à jouer sur le plan politique et puis d'une majorité à l'Assemblée qui doit apporter son soutien sur la réalisation des projets. Vous savez, lorsqu'on regarde d'abord l'intérêt supérieur du pays, il faut être optimiste. Nous avons tous à gagner sur l'unité préservée, mais aussi sur le fait de se dire les choses vraies, très clairement. Et sans ombrage.
Selon nos informations, lors de cette entrevue, les deux hommes ont prévu d'évoquer le fonctionnement des institutions, la position du Parti Orange sur l'agenda politique du gouvernement et la feuille de route d'Edouard Fritsch par rapport au programme de 2013.
Marina Sage et Jean-Paul Toaïva n'ont pas voté la motion hier.
Contrairement à Jonas Tahuaïtou, les députés Marina Sage et Jean-Paul Toaïva n'ont pas voté la motion de censure déposée par leur groupe contre le gouvernement central pour avoir utilisé l'article 49.3 pour faire passer le projet de loi Macron. Marina Sage nous a confié qu'elle considérait que ni le recours à l'article 49.3 ni la motion de censure n'avaient véritablement de sens à ses yeux. Elle a pris le parti de défendre le gouvernement en place et on l'écoute se justifier.
Un texte quand même qui a apporté des améliorations concrètes dans certains domaines des professions réglementées. Certes, ça n'allait peut-être pas assez loin pour certains, trop loin pour d'autres, mais enfin, l'article 49.3 démontre quand même qu'il y a une fragilité de la majorité aujourd'hui. À mon sens, comme d'autres députés de l'UDI, ni le recours au 49.3, ni la motion de censure n'a véritablement de sens, quoi. Il ne permet pas réellement de répondre aux problématiques actuelles de la France. Donc ça, c'est très clair pour nous. J'ai entendu également par rapport à notre situation. Très franchement, très objectivement, nous sommes dans une opposition constructive. Nous avons des relations aujourd'hui tout à fait correctes avec l'État. On a un gouvernement, malgré le fait que nous soyons effectivement dans un groupe d'opposition, qui fait preuve d'écoute, qui essaye d'avancer sur nos dossiers. Donc, autant nous ne soutenons pas le recours au 49.3, autant nous ne sommes pas pour une motion de censure de ce gouvernement qui essaie quand même, dans un contexte national difficile, d'être aux côtés de la Polynésie.
Des propos recueillis par Vaïté Ourari Pambrin.
Et on parle de la Chine, de nouveau à l'occasion du Nouvel An chinois et l'histoire de l'immigration chinoise en Polynésie.
Pour célébrer cette nouvelle année de la chèvre de bois et les 150 ans de l'immigration chinoise, la rédaction de Radio 1 recevait hier dans le journal de la mi-journée Guy Mux ainsi que le président de l'association Wenfa Guy Young, qui est également l'auteur du livre Kun Sulan, Me revoilà, saga d'une famille chinoise, un livre qui retrace l'histoire de l'arrivée des Chinois à Tahiti. Lors de cette entrevue menée par Antoine Samoyo, Guy Young est revenu sur les trois vagues successives de l'immigration chinoise en Polynésie. La première arrivée d'un trois-mâts chargé de 300 travailleurs chinois papetés remonte au 28 février 1865. Ces derniers ont été suivis de près par 700 autres travailleurs. Après cette première vague, deux autres arrivées massives ont eu lieu entre 1907 et 1914 avec plus de 2500 Chinois, puis entre 1921 et 1928 avec à nouveau environ 2500 travailleurs arrivés de Chine. Guy Young précise qu'à chaque fois, ces vagues d'immigration ont cessé pour des raisons économiques ou par des décisions de politique d'immigration.
La première vague, ils sont restés parce que la société de la Grande Plantation ne pouvait pas les rapatrier. La deuxième vague, 1907-1914, ça s'est arrêté parce que il y avait une obligation ensuite qui a été mise en œuvre d'un contrat obligatoire avant de venir à Tahiti. Donc là, du coup, mais il y avait beaucoup moins de gens. Et la troisième vague, donc 1921 à 1928, qui correspond donc à la fin de l'obligation de contrat, il y avait donc cette fois-là une obligation de caution à partir de 1928-29. Et ça, c'est 4500 francs. De l'époque, c'est considérable. C'est plusieurs années de salaire. Hein, et donc, c'était fini. À partir pratiquement de 1928, il n'y a plus eu d'immigration significative. Hein, on parle bien de trois vagues au sens significatif. Hein, 1000, 2500, 2500.
Leur interview complète est à retrouver sur notre site radio1.pf.
Du sport maintenant avec la Tahiti Nuiva qui se prépare.
Les organisateurs de la Tahiti Nuiva ont convié les médias et les partenaires de la course hier pour dévoiler les détails de la 10e édition prévue du 21 au 23 mai de cette année. Le concept ne change pas, la course de V6 reste étalée sur 3 jours de compétition et 3 étapes de 166 km en tout entre Mahina, Vairao et Tautira. Cette année, les organisateurs prévoient le même nombre de rameurs que les éditions précédentes, soit environ 700, mais la particularité pour 2015 va être l'ouverture à un plus large panel d'équipage. Beaucoup viendront de l'étranger. Pour l'instant, des teams de Rapa Nui, de Hawaï, de Nouvelle-Zélande et d'Australie et même de Chine se sont fait connaître auprès des organisateurs. Et puis le directeur de la course, Patrick Taharoa, explique que l'on verra cette année également davantage de rameurs des îles sur le plan d'eau et puis aussi davantage de femmes avec la participation d'équipages mixtes.
C'est une demande de la part des Iliens. Au lieu de venir avec un club, c'est de prendre les meilleurs des clubs des îles. C'est-à-dire que s'ils ont 4 ou 5 clubs, eh ben chaque club va se réunir et nommer ou sélectionner les meilleurs rameurs de l'île concernée. Donc si je prends par exemple les Marquises, ils sont plusieurs et ils vont former une sélection pour venir dans cette compétition. Alors il faut savoir que cette année, la nouveauté de cette année, c'est qu'on veut mettre en valeur les femmes. Donc dans notre course, il y a les juniors, une équipage de femmes. Il y a même des Australiennes qui viennent à notre course. Mais on a aussi des femmes qui n'ont pas les moyens de former une équipe. Donc on donne cette fameuse ouverture cette année qu'on appelle l'équipe mixte, où une femme ou deux femmes peut ramer sur une équipe avec quatre hommes.
Et vous le savez sans doute, la Tahiti Nuiva est une course particulièrement intense pour les rameurs, en particulier à cause de la houle et des changements qu'il faut arriver à maîtriser. L'Onomahiki Terurei, pilier du team d'été, affirme que les vainqueurs de la Hawaiki Nuiva 2014 seront tous présents au sein du team d'été et que l'entraînement a d'ailleurs déjà commencé.
Tous ceux qui ont gagné avec nous l'année dernière seront présents à Tahiti Nuiva. De toute façon, c'est notre course, donc on met tous les atouts de notre côté pour essayer de gagner cette course. Les courses à changement, c'est que voilà, c'est plus intense, il y a plus de rythme, c'est beaucoup de cardio. Et je veux dire aussi pour la particularité de cette course, c'est que tu as toutes les conditions. Tu as le côté de la côte ouest, c'est plus du plat, et quand tu es à la deuxième étape, c'est plus de la remontée, quoi. Et donc la dernière étape avec du surf, donc tu as un peu toutes les conditions. Je pense que c'est aussi la difficulté de cette course, quoi. On se tape des entraînements de 5 heures, voire 6 heures. Même. Et voilà, on répète les changements, on travaille avec notre bateau suiveur, il faut que le capitaine soit aussi en symbiose avec nous, donc on travaille tout ça à l'entraînement.
À raison de combien d'heures par semaine?
Nous sommes à 14 heures par semaine en gros, en général, donc on est en plein dedans. Voilà. Donc on s'entraîne 6 jours sur 7, matin et soir.
Ouh, un programme intense.
Oui, je suis fatigué.
Vainqueur en 2009 et en 2011, EDT avait été battu par Shell en 2013. Et donc, le team aura à cœur de prendre sa revanche et d'entamer sa saison 2015 aussi bien qu'ils ont achevé celle de 2014. Tous les renseignements sur la course sont disponibles sur le site tahitinuiva.com.